Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 mai 2026. Le joli mois de mai est arrivé et aujourd'hui il pleut beaucoup. Mathieu, vous l'avez échappé belle.
Oui, comme la chanson.
Oui, la chanson de Beau Dommage. Vous êtes arrivé puis il a commencé à pleuvoir et à un moment donné, le rythme était assez soutenu. Là, moi, j'étais à l'abri, mais je voyais les gens autour de moi qui n'avaient pas nécessairement écouté le bulletin météo ou lu à propos de la météo, en tout cas dans la grande région de Montréal. Et certaines personnes étaient bien arrosé pour ne pas dire bien trempé. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a une émission bien trempée dans le sens que ce sera bon? Oui, il y aura plusieurs chroniques, des invités, chronique livre avec Anne-Marie Aubin qui nous parle de deux livres aujourd'hui. Aussi, nous aurons une entrevue avec une actrice que vous connaissez qui roule sa bosse depuis des années. Je regardais son parcours, elle a joué dans tellement de pièces de théâtre, on l'a vu à la télévision, on l'a vu au cinéma. Et c'est une actrice qui est toujours bonne, toujours juste, toujours naturelle. Elle s'appelle Muriel Dutil et elle joue dans une pièce de théâtre qui sera à l'affiche du Théâtre Rideau Vert bientôt. Nous aurons Émilie Bouchard-Labonté, directrice générale adjointe d'Altergo, puisque le défi sportif Altergo s'est terminé il y a quelques jours, mais le 3 mai, alors c'est tout récent. Et Émilie viendra nous dresser le bilan de cette 43e édition. À part cela, Michel Poitevin sera avec nous pour sa chronique économique. Donc, une émission assez chargée avec de la bonne musique. On écoute Charlotte Cardin qui a cartonné en France tout récemment.
Il y a ma main dans la fenêtre, titanite. Il y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been knowing, now I'm back to you. C'est arrivé. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me
de Charlotte Cardin.
Oui, Charlotte Cardin qui a ébloui les 15 000 spectateurs qui étaient à son concert exceptionnel à l'Accor Arena le 30 avril dernier. L'Accor qui s'appelait auparavant Bercy, et c'était un grand rêve pour Charlotte Cardin, elle qui admire Céline Dion depuis longtemps. Céline Dion qui a fait Bercy au moins 36 fois, selon Charlotte Cardin. Alors, c'est bien parti pour elle en France, là, vraiment. Elle connaît un succès de plus en plus grand. Alors, allons-y donc avec les unes des journaux d'aujourd'hui. On apprend à la une du Journal de Montréal que Renaud Lavoie, qui est l'informateur hockey de TVA, a été victime de deux AVC, la peur de sa vie. Heureusement, il s'en est bien sorti. Il écrit une longue lettre dans le Journal de Montréal, publiée en page 60, qui se termine ainsi. « Merci encore mille fois à tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours. Je vous en serai toujours reconnaissant. » Pour ce qui est de la date de mon retour, je ne saurais dire présentement. Je n'ai pas de séquelles physiques, mais le docteur Eman Moussadi, qui est docteur à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, soutient que mes symptômes ressemblent à ceux d'une commotion cérébrale. Le temps dictera donc la suite des choses. Alors, on se dit à bientôt et on se dit « go, abs, go ». Alors, prompt rétablissement à Renaud Lavoie. Délai et négligence, 5 bébés morts à l'accouchement, 5 mères dont le bébé est décédé tragiquement lors de l'accouchement dans le même hôpital dénoncent les mauvais soins qu'elles ont reçus. On n'a pas donné de chance à notre bébé, je me suis vidée de tout mon sang. C'est comme un miracle que je sois encore en vie, confie Stéphanie Leclerc-Latulippe qui a perdu sa petite Ophélie le 5 décembre dernier. Il s'agit du plus récent décès de nouveau-né recensé par le journal à l'hôpital du Suroy. Au moins 4 autres cas troublants d'accouchement ont eu lieu dans cet établissement de Salaberry de Valleyfield en Montérégie depuis 2019. Dans tous les cas, le fœtus était à terme et en bonne santé durant la grossesse. Encore très affectées, ces femmes déplorent de la négligence médicale à plusieurs niveaux, notamment des délais pour obtenir une césarienne. Par courriel, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest écrit que chaque décès périnatal fait systématiquement l'objet d'analyses cliniques rigoureuses approfondies pour améliorer la qualité des soins. On ajoute qu'il n'y a pas d'enjeu de main-d'œuvre qui pourrait mettre à risque la sécurité des services. Des enquêtes du coroner peuvent être déclenchées selon les circonstances. On parle aussi de santé à la une de la presse plus d'aujourd'hui. Des nouvelles qui donnent froid dans le dos. Quitter les urgences sans voir de médecin, c'est devenu un fléau devant les temps d'attente. Des centaines de milliers de patients jettent l'éponge. Et ça peut être une question de vie ou de mort, finalement. Près de 370 000 Québécois ont quitté les urgences sans avoir vu un médecin l'an dernier. Et ce, même si leur situation était considérée comme urgente ou semi-urgente dans 30 % des cas, révèlent des données obtenues par la presse, un constat qui préoccupe les soignants et qui pose un risque pour les patients. Un dossier de Marie-Ève Cousineau. Et à la une de la presse, on voit la mère du petit Axton Corot. Axton, 3 ans et demi, qui fait une grosse fièvre depuis 2 jours, au thermomètre 40 degrés. Inquiète, sa mère, Leslie Corot, l'emmène aux urgences de l'hôpital Papineau à Gatineau en Outaouais. À 1h30 du matin, après plus de 9 heures d'attente, elle abdique et repart à la maison avec son fils brûlant et fatigué, sans avoir vu de médecin. C'était en mars 2025 et la suite donne froid dans le dos. Durant la nuit, la fièvre monte à 41 degrés. Peu après son réveil, Axton demande à se recoucher, des cernes sous les yeux, il refuse de manger et de boire. « Ça ne va vraiment pas », résume Leslie Corot. Elle se rend avec lui aux urgences de l'hôpital de Wakefield, peu occupée ce jour-là. La mère insiste pour que son fils soit vu par un médecin. En 1 heure, la consultation médicale et les prises de sang sont achevées. Finalement, le médecin nous envoie en urgence au centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario. « Mon fils a une leucémie lymphoblastique aiguë. » Cette histoire apparaît exceptionnelle, mais témoigne d'un phénomène réel. Au Québec, près de 370 000 personnes ont quitté les urgences sans avoir été vues par un médecin en 2025-2026, soit 10,2 % des patients qui s'y sont rendus. Environ 66 000 d'entre elles sont revenues dans un délai de 48 heures, révèlent des données obtenues par la presse, grâce à une demande d'accès à l'information auprès de Santé Québec. Parmi elles, des cas sérieux qui auraient dû être pris en charge rapidement. près de 30 % des patients qui sont partis des urgences étaient considérés comme des cas urgents et semi-urgents en 2024-2025, selon un autre document obtenu. Dans le jargon médical, on les appelle des P2 et des P3, P pour priorité. Ils souffrent, par exemple, de douleurs abdominales ou de douleurs thoraciques. Leur départ sans prise en charge médicale est devenu un fléau, selon le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. À la une du Devoir d'aujourd'hui, une photo, le Canada et la France continuent de se rapprocher. Le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, lundi en marge du sommet de la communauté politique européenne en Arménie. Les dirigeants se sont dit enthousiastes à la perspective de la prochaine visite du premier ministre canadien en France à l'occasion du sommet des dirigeants du G7, au cours duquel ils feront progresser des priorités communes afin d'offrir davantage de possibilités, de sécurité et de prospérité à leurs populations respectives. L'esprit de Trudeau toujours à Ottawa. Depuis le départ de l'ex-premier ministre Justin Trudeau l'an dernier, personne n'a parlé aussi souvent de lui dans l'enceinte de la Chambre des communes que le chef conservateur Pierre Poilievre au cours du dernier mois. Le premier ministre vient de voler les paroles de Justin Trudeau, sauf qu'il a doublé le déficit de M. Trudeau, a envoyé le chef conservateur au visage de Mark Carney durant un échange lors de la période de questions du 29 avril. Il n'est pas rare du tout qu'un élu se lève de son siège de la Chambre des communes pour mentionner celui qui a été premier ministre du Canada de 2015 à 2025. La scène s'est reproduite à 854 reprises entre le lancement de la 45e législature du Canada le 26 mai 2025 et le 1er mai 2026, comme le montre une compilation du Devoir. Et puis, autre titre à la une du Devoir d'aujourd'hui, en relations internationales, Magdalene Boutros qui signe le texte. « Nous vivons actuellement une crise de manque d'empathie », déplore Bob Rae, ex-ambassadeur canadien à l'ONU. « Les crises sont partout, ici comme à l'international, et les conflits se multiplient avec des conséquences dévastatrices pour les populations. » Mais la solidarité, elle, semble faire défaut. L'empathie est pourtant un sens de la solidarité qui est essentiel pour vraiment pouvoir exprimer notre vraie nature humaine, soutient l'ex-politicien, qui a amorcé le 1er mai un nouveau mandat en devenant président du Conseil d'orientation du Centre d'études et de recherche international de l'Université de Montréal, qu'on appelle CERIUM. Et en prenant la parole, Bob Rae espère susciter un réveil des Canadiens. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, la scène mondiale n'est pas qu'une arène vouée à faire progresser des intérêts nationaux, clame-t-il en entrevue au Devoir. Il y a tellement de défis dans le monde qui ne sont pas seulement des défis de prospérité, mais aussi des défis de développement. Il y a les réfugiés, la résolution de conflits et surtout, ajoute-t-il, il ne faut pas oublier ceux qui sont les moins bien nantis dans le monde et les personnes les plus marginalisées. Face à la multiplication des crises, les Canadiens doivent réfléchir à leurs obligations morales sur la scène internationale, plaide celui qui a été premier ministre de l'Ontario de 1990 à 1995 sous la bannière du Nouveau Parti démocratique et qui a plus tard été chef du Parti libéral du Canada. On ne peut pas se soustraire à nos devoirs.
Un peu de magie. Dans nos vies mosseurs, s'enlever l'envie de quitter la parole, c'est quand même bien plus le fun d'essayer de fucker la donne. Amis. les autres otages. Mais c'est quand même bien plus drôle d'essayer d'échanger les rôles. Bonheur de vous voir.
Un peu de magie de Philippe Braque.
Et un petit scoop ici qui a été annoncé quand même il y a quelques minutes par Joël Denis Bellavance dans la presse plus, notamment le premier ministre Mark Carney doit annoncer ce matin que l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, deviendra la prochaine gouverneure générale du Canada. Reconnue pour son expertise juridique ici comme à l'étranger, Mme Arbour succédera ainsi à Mary Simon au poste de représentante du roi Charles III au Canada. Et là-dessus, on joint au bout du fil Émilie Bouchard-Labonté, directrice générale adjointe d'Altergo. Bonjour, Émilie.
Bonjour, Hélène.
Merci d'être là.
Mais merci de me recevoir encore une fois, puis pour la toute dernière fois dans le cadre du 43e défi sportif Altergo.
Oui, c'est la fin. Il me semble que ça a passé vite. On dit ça chaque année, mais on est déjà rendu au 5 mai. Émilie, vous vivez le défi sportif Altergo de l'intérieur depuis plusieurs années déjà. Est-ce que vous diriez que la 43e édition s'est démarquée, a été une bonne édition?
Ça a été une très, très, très belle édition, Hélène. On a toutes un peu les yeux dessus cette semaine, je vous dirais.
Ah oui?
C'est pour des bonnes raisons. J'ai très hâte de vous parler de mes coups de cœur de cette année. Mais avant, comme vous avez participé, vous avez assisté pour la toute première fois au défi sportif Altergo, Hélène, j'inverserai un peu les rôles, puis je me mettrai dans le rôle de l'intervieweuse pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé.
Alors, ma chère Émilie, j'en ai déjà parlé sur nos ondes, mais vous étiez occupée ailleurs, donc vous ne m'avez pas entendue, mais je peux vous dire avec grand plaisir que j'ai adoré mon expérience. L'accueil a été chaleureux, vous étiez là d'ailleurs, avec toute une équipe de personnes tellement dévouées, dédiées aux défis sportifs, et aussi de voir les étoiles dans les yeux de plusieurs athlètes en situation de handicap, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et j'ai appris aussi à jouer au boccia, ma chère, grâce à une athlète, une toute jeune athlète qui avait gagné la médaille de bronze et qui était vraiment passionnée de son sport. C'était très motivant d'être en contact avec elle. Et je dirais que le défi sportif Altergo, c'est un événement exceptionnel et inclusif à la fois. Et je pense que je vais être au rendez-vous l'année prochaine.
Bien, je suis très heureuse d'entendre ça. Et on se fera un duel de boccia alors, Hélène.
Ah, bien, pourquoi pas? Il va falloir que je me pratique d'ici là.
Bien, je vous remercie officiellement d'avoir accepté notre invitation, vous et votre équipe. Canal M est un partenaire exceptionnel pour le défi sportif Altergo. Donc, c'est vraiment important. Puis, on était vraiment choyés de vous y accueillir sur des choses avec tout ce que je vous avais raconté dans les dernières semaines, puis que vous avez vraiment pu constater que c'était autant une expérience sportive qu'un moment de société. Donc, merci d'être venu.
Ah, ben c'est une grande fierté. Et bon, alors maintenant, on va faire le tour du défi sportif Altergo, édition 43e. Donc, vous, on le disait tantôt, vous vivez cet événement de l'intérieur depuis longtemps. Mais cette édition, parlez-nous-en, là, quels ont été vos coups de cœur d'abord?
Ben, impossible de pas commencer par notre moment historique, ce qui était qu'on accueillait pour le tout premier championnat canadien féminin de rugby en fauteuil roulant. Je sais que j'en ai parlé dans les dernières semaines, mais là, de le voir concrètement, c'est 21 femmes sur le terrain, alors qu'il était seulement 8 il y a quelques années à faire partie de leurs équipes locales, d'en voir 21 en même temps. Puis elles-mêmes, elles étaient très émues de vivre ce moment-là avec nous. Puis surtout que ce championnat canadien que nous, on a accueilli, qu'on a contribué à organiser, mais on sait que ce n'est que le début, c'est que la première pierre à l'édifice pour le développement du sport féminin en rugby en fauteuil roulant. Puis on sait que toutes ces athlètes-là ont dans la mire un premier championnat international à Paris en décembre 2026. Mm-hmm. Un espoir que le rugby en fauteuil roulant féminin soit au programme des Jeux paralympiques à Brisbane en 2032. Donc, c'est la première pierre à l'édifice auquel on a contribué de construire.
Bravo. Et la Coupe du monde de Boccia, on sentait que c'était quelque chose de gros aussi.
Complètement. 21 pays, une centaine d'athlètes, des matchs de médailles hyper serrés, puis une ambiance incroyable à l'aréna Maurice Richard. C'est sûr que du côté du Canada, des athlètes canadiens, ça n'a pas été les résultats espérés. Mais une de nos athlètes ambassadrices, Alison Levine, qui fait partie de cette discipline-là, pour elle, ce n'est que le début de cette saison, cette période de qualification-là en vue des Jeux paralympiques de Los Angeles dans 2 ans. Et elle a pu constater par elle-même le plaisir des athlètes de revenir à Montréal. Puis pour nous, bien, on est heureux de contribuer à cette vitrine-là de Montréal sur la scène internationale.
Et je pense que votre jour 1, le mini-marathon a donné le ton de façon merveilleuse à votre événement. Il faisait beau.
En effet. Il faisait beau. Donc, je remercie tous les auditeurs de Canal M avec qui j'avais demandé il y a quelques semaines de mettre leur chapelet sur la corde à linge.
Ça a marché.
Dans toutes les dernières éditions que j'ai vécues, je pense que c'est le côté météo, c'est la plus belle édition que nous avons eue. Donc, c'est sûr que ça aide à ce que toutes les choses se passent bien. À notre jour 1, effectivement, 1200 athlètes étaient au Parc Jarry pour donner le coup d'envoi. Puis c'est sûr qu'il y a plein d'histoires qui nous restent en tête, mais déjà, moi, je trouvais que j'avais eu ma paye cette journée-là, puisque j'ai pu rencontrer une jeune maman dont le garçon de 5 ans faisait sa première compétition, donc le 500 mètres en marchette. Et c'était vraiment, je vous partage ce moment-là, mais c'est aucun scénario, je n'invente rien, mais j'étais à côté de cette dame-là tout à fait par hasard et je l'entends dire « il l'a eu », tout ému en pleurant, parce que après une opération au dos il y a 3 ans, elle croyait pas du tout la physio de son fils qui lui disait « ben oui, il va être capable de faire la course » et elle a pu constater ça. Et je pense que ça va être maintenant une fidèle au défi sportif Altango avec son garçon. Donc, créer ces moments-là, pouvoir faire vivre ces moments-là aux athlètes, aux familles, pour nous, bien, c'est sûr que c'est ça notre mission. Puis là, j'ai eu ma paye bien vite.
Ah oui, hein, beaucoup d'émotions, on en est sûr. Et il y avait aussi des compétitions que vous avez vues pour la toute première fois, Émilie.
Oui, pour moi, c'est un premier des tournois de balmol puis de pickleball pour les athlètes sourds et malentendants en collaboration avec l'Association des sports pour les personnes sourdes du Québec. C'était moi qui n'étais pas incluse, Hélène. C'était tellement intéressant. Ça se parlait en LSQ. J'ai été fascinée pour les échanges de communication sur un terrain de balmol entre ces athlètes-là. Puis après ça, ils ont joué en double en pickleball. Donc pour moi, ça a été vraiment un moment merveilleux. Puis écoutez, je veux juste te donner cet exemple-là parce qu'on parle souvent qu'on accueille toutes sortes de limitations. On a vraiment une grande diversité dans les limitations fonctionnelles des athlètes qui viennent au défi. Puis là, c'est une collaboration avec la SSQ qui a vraiment bien fonctionné. J'étais vraiment heureuse, puis je pense qu'ils vont revenir eux autres l'année prochaine.
On le souhaite, en tout cas. Et côté performance sportive?
Un moment très, très fort, je vous dirais. Je vais vous amener du côté de Boucherville, au Centre des glaces Gilles Chabot, puisqu'on y tenait le championnat canadien de curling en fauteuil roulant pour la 2e année consécutive. Et la médaille d'or est allée à l'équipe du Québec et notre athlète ambassadeur, Karl Marquis. Ça a été une finale électrisante. C'est un premier titre national pour le Québec depuis 2013. Donc, on l'attendait avec impatience. Un peu un rematch, si je peux me permettre l'anglicisme, de l'année dernière, puisque les deux mêmes équipes s'affrontaient pour la finale. Donc, l'équipe du Nord de l'Ontario et l'équipe du Québec. Et finalement, cette année, après avoir gagné l'argent l'année dernière, le Québec est reparti avec la médaille d'or. Je dirais qu'il y avait de la tension un petit peu, mais de la fierté puis beaucoup d'émotion dans l'aréna. Le Québec, ça concluait une série de matchs parfaits. Ils ont été invaincus durant tout le tournoi. Puis, bien, Karl Marquis a été une sacrée aussi meilleur joueur du tournoi. Donc, ça a été vraiment une belle conclusion pour nous cette fin de semaine-ci à notre 43e défi sportif Altargo. J'ai parlé de Karl Marquis. J'ai parlé de Alison Levine, mais je ne peux pas passer sous le silence les performances et les prises de parole de nos autres athlètes ambassadeurs aussi. Puis je veux les remercier entre autres aussi Mélanie Labelle en rugby, en fauteuil roulant, Chloé Pellan-Lambert en athlétisme, volet scolaire, qui concluait son parcours scolaire avec nous, et Loïc Constantino qui repartit avec une médaille d'or en para-hockey. Donc, ils ont vraiment incarné exactement ce qu'on voulait transmettre. La confiance, le plaisir de bouger, le sentiment que les possibilités sont plus grandes qu'on pense. Donc, c'est une très, très grande fierté pour nous.
Chapeau à tous ces gens. Le défi sportif Altergo est terminé, mais on sent que l'histoire s'arrête pas là. Qu'est-ce qui attend Altergo dans les prochaines semaines?
Je vous dirais qu'on nous disait qu'on avait les yeux petits, mais on ne ralentit pas. Parce que dès cette semaine, dès jeudi, donc, on lance la tournée À vos marques, qui va parcourir 8 régions du Québec jusqu'au 11 juin. La tournée À vos marques, en fait, c'est une version un petit peu plus petite du défi sportif Altergo pour les régions un peu plus éloignées qui peuvent pas venir à Montréal, où c'est plus, les déplacements, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, on s'en va à l'extérieur, on s'en va visiter leur région. Donc, on sera à Trois-Rivières cette semaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ensuite dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, les Hautes-Laurentides, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Abitibi. Donc, on va s'assurer là, qu'on a toutes les régions du Québec cette année qui vont avoir participé à une de nos, soit à la tournée d'À vos marques ou au défi sportif Altergo, à une de nos activités dans le cadre d'Altergo événement. Donc, on continue de faire bouger les gens encore pour un mois.
Mais oui, vous n'aurez pas grand temps pour vous poser, là.
Ça sera pour plus tard.
Il y a aussi quelque chose qui se passe ailleurs au Canada.
Effectivement, Hélène, on en avait aussi discuté un peu ensemble, mais c'est quelque chose de majeur, puis je voulais conclure un peu avec ça, mais du 13 au 17 mai, on va assister à la naissance des One Ability Games en Colombie-Britannique. C'est le premier événement qui est inspiré du défi sportif Altergo qui va se passer ailleurs au Canada, à l'extérieur du Québec. L'équipe des One Ability Games, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils viennent nous visiter durant le défi sportif Altergo, qui viennent s'inspirer, qui viennent rencontrer nos équipes pour développer leur expertise afin de concrétiser un nouvel événement dans l'Ouest canadien. Et c'est cette année, finalement, que tout ça se concrétise. Il va être 1000 athlètes qui ont répondu présents. L'équipe a envisagé d'en avoir 750. Donc déjà, ça, c'est 250 de plus. Mais c'est vraiment le début concret pour nous d'un réseau pan-canadien en sport adapté. Puis on est vraiment fiers d'être capable de créer ça. Parce qu'on réalise, le défi sportif Altergo, c'est plus qu'un événement. On veut amener notre mouvement, on veut amener notre vision un peu partout ailleurs au Canada pour pouvoir s'assurer que personne n'est laissé de côté.
En toute franchise, après l'avoir vécu pour la première fois, on comprend pourquoi. Un grand merci, Émilie. C'est toujours un bonheur de vous recevoir à chaque année. Votre énergie fait beaucoup de bien et l'événement est tellement extraordinaire. Alors, j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine.
Je le souhaite aussi. Merci, Hélène, et merci à toute l'équipe de Canal M.
Bonne journée, bonne suite. À la prochaine.
Merci. Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La samba, ta samba par André Gagnon et Michel Potvin est en studio aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Michel, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. C'est pas facile pour tout le monde de se loger. On parle beaucoup de logement social. Qu'en est-il exactement, Michel?
Bon, le logement social, c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. C'est quoi le but du logement social? Bien, c'est d'offrir des logements abordables, puis on veut aider les locataires qui sont dans le besoin pour les assurer contre des augmentations ou les protéger contre des augmentations trop déraisonnables de loyer. Où on en a du logement social, mais ça peut être partout, ça peut être même en région, mais souvent quand on parle des villes, Montréal, les quartiers centraux qui ont tendance à se gentrifier et puis...
À s'embourgeoiser.
Donc, c'est vraiment là où les besoins sont les plus importants. Puis ce qui arrive souvent dans ces quartiers en voie d'embourgeoisement, c'est qu'on a ce qu'on appelle des rénovictions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit l'immeuble est vendu ou le propriétaire décide de faire des grosses rénovations pour être capable d'augmenter le prix des loyers. Puis les locataires qui sont là sont un peu pris par ces augmentations-là.
Ils deviennent des victimes.
Ouais.
Comment on peut aider les locataires dans ces quartiers, justement?
Bien, pour les aider, il faut comprendre la base du problème. On vient de le décrire, mais la base du problème, en fait, c'est le terrain qui s'apprécie. Alors, pourquoi les loyers augmentent? Bien, en partie parce que...
C'est la valeur du terrain?
La valeur du terrain. Donc, un quartier qui s'embourgeoise... Je ne sais pas si c'est le bon...
Sans bourgeoise.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une demande accrue pour ce quartier-là. Puis ça fait augmenter la valeur des terrains.
Mm-hmm.
Et puis, si les terrains augmentent, bien, les propriétaires disent, bien là, mon terrain vaut cher, c'est parce qu'il y a une demande, je peux charger plus cher, donc je vais augmenter mes loyers. Alors, donc, c'est vraiment la valeur du terrain. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de séparer la valeur du terrain des coûts d'entretien d'un immeuble. Donc, le loyer ne reflète pas seulement la valeur du terrain, mais également les coûts d'entretien de l'immeuble. Parfois, c'est un logement chauffé, le chauffage, le coût des taxes, etc. Donc, il faut essayer de séparer les deux. Comment on peut faire ça? Bien, il y a différents modèles qu'on retrouve. Souvent, ça peut être la municipalité ou le gouvernement qui possède des logements.
Mm-hmm.
Et puis, qui ne veulent pas nécessairement faire de l'argent avec le terrain, mais ils vont juste charger ce que ça coûte d'opérer l'immeuble aux locataires. Ça peut être fait aussi par le biais d'une organisation à but non lucratif, une OBNL, qui pourrait devenir propriétaire de l'immeuble. Puis comme elle n'a pas un objectif de profit, elle va un peu oublier la valeur du terrain. Il est là, mais on ne changera pas ses augmentations. On va juste s'assurer de rentrer dans nos coûts variables d'opération. Ou bien ça peut être le modèle coopératif. Mm-hmm. Il existe certaines coopératives à Montréal où ce sont les locataires qui sont propriétaires de l'immeuble, qui sont par le biais d'une coopérative. Donc, c'est vraiment encore une fois, de séparer l'augmentation de la valeur du terrain des coûts d'opération.
Et d'avoir une conscience sociale jusqu'à un certain point.
Ben, exactement.
Alors, est-ce que ça semble, une bonne idée, mais est-ce qu'il y a des exemples?
Bien, un peu pour ça que j'en parlais, Radio-Canada Info faisait état d'une expérience récente dans Hochelaga-Maisonneuve. On a deux entrepreneurs, Émilie Thérien et son partenaire d'affaires, Marc-André Robertson, qui ont fondé une OBNL, organisation à but non lucratif, qui s'appelle Hochelab, donc dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis, ils ont fait un premier achat. Ils ont acquis un immeuble de 15 logements sur la rue Moreau.
Même l'adresse précise, 2655.
Bien, c'était dans l'article, donc je me dis que ce n'est pas un secret, là, 2655 Moreau. Puis le propriétaire voulait vendre, puis il était entouré de projets où on achetait puis on transformait en condo ou bien on rasait puis on construisait de nouvelles unités de logement à loyer beaucoup plus élevé.
Ouais.
Et puis on réussit à convaincre le propriétaire de faire un bon geste et puis de vendre à un prix raisonnable pour les deux, évidemment. Il n'a pas donné son immeuble, mais il a vendu. Puis comment ils sont financés? Parce qu'il faut quand même l'acheter, cet immeuble-là.
Ça prend de l'argent.
Donc, ils ont eu des subventions. On nous rapporte pour à peu près 50 % du coût de l'immeuble qui était 3 millions. Alors, quand même, le coût d'acquisition, c'est un peu plus de 3 millions. 50 % en subvention du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Puis le reste, j'imagine, ça doit être une mise de fonds, puis du financement hypothécaire. Puis c'est possible que le financement hypothécaire soit fourni, c'était pas détaillé dans l'article, mais par soit la Ville, ou le gouvernement, mais ce financement-là, la subvention ou les prêts, c'est conditionnel au fait que les loyers sont maintenus à un niveau abordable. Donc, on peut pas dire on achète comme ça, puis après ça, on charge les gros loyers, là. Donc, évidemment, il y a une... Ça s'inscrit dans un objectif de la Ville de Montréal. Dans son rapport Chantier Montréal abordable, qui a été publié en 2024, la Ville de Montréal voulait avoir, en 2050, à peu près 225 000 unités de locatives qui seraient abordables pour les gens qui se qualifieraient pour ces loyers. Alors, la Ville, pour atteindre cet objectif-là, elle avait deux stratégies d'intervention, soit construire des nouveaux logements ou faire l'acquisition d'immeubles existants.
Des nouveaux logements sociaux et abordables.
Oui. Ouais. Donc, la Ville aurait, par exemple, un terrain, on construit des nouvelles unités, mais on maintient les loyers à un niveau abordable.
Ouais.
Plutôt que, entre guillemets, le prix du marché. Parce que la difficulté, c'est que ce n'est pas le prix du marché. Si le prix du marché était abordable, on n'aurait pas de problème. Donc,
mais ce n'est pas le cas.
C'est ça. Ou bien favoriser l'acquisition par... donc, soit construire ou favoriser l'acquisition, notamment par des OBNL, comme dans le modèle qu'on a. Et évidemment, c'est beaucoup moins cher à acquérir des logements et des édifices existants que d'en construire des nouveaux. Donc, Hochelab, là, notre fameuse OBNL, est vraiment positionné dans cette optique-là.
Ça doit être assez populaire. Hein?
C'est populaire. Son téléphone ne dérougit pas. Il y a même des propriétaires d'immeubles qui appellent l'OBNL pour leur vendre leurs immeubles.
Ah oui.
Donc, est-ce que les... évidemment, on a seulement deux entrepreneurs. Il faut quand même les gérer, ces immeubles-là. Là. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, on va voir à quel rythme de croissance on est supposé aller, mais on va espérer que ça va inspirer d'autres...
Ben oui, on l'espère certainement.
OBNL.
C'est un très bel exemple d'implication sociale, là.
Oui, ça fait une différence, mais comme bon économiste, on a toujours un « ça dépend » ou un petit bémol. Donc, je pense que c'est un excellent projet. Puis on souhaite bonne chance, évidemment, aux entrepreneurs et tout. Puis on va espérer, encore une fois, que ça en inspire d'autres. Mais en même temps, il faut réfléchir. C'est pas facile de vraiment cibler ceux qui en ont besoin. Prenez l'édifice de la rue Moreau, puis là, je connais pas les locataires. Mm-hmm. Donc, par exemple, supposons que les locataires, ce sont des gens qui sont plus dans le besoin ou pour qui c'est plus difficile.
Défavorisés.
Exactement. On tient les loyers pas chers, mais supposons, puis là, je prends un exemple un peu farfelu, mais un des locataires gagne à l'auto, puis il décide de rester là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met à la porte? Tu sais, c'est toujours l'idée de voir, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le besoin à un moment donné, mais à une autre étape dans leur vie, ils ne sont plus dans le besoin. Puis là, est-ce qu'on, j'appellerais ça des socio-victions, ou est-ce qu'on veut les expulser de leur logement parce que tout d'un coup, le revenu a augmenté? Donc, vous voyez la difficulté d'aider, là, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est un problème...
Mais gagnant le loto, là, les chances sont minces.
Non, mais ça
peut être
toutes
sortes...
Ça pourrait être d'autres choses, là. Ça pourrait être quelqu'un qui est en début de carrière, un entrepreneur, ou tout ça, en début de carrière, c'est pas facile, il se part une business, là, ça commence à aller bien, puis là, il dit, ah, ben là, moi, j'ai un loyer pas cher, je vais rester ici, alors qu'il y aurait moyen d'aller ailleurs. Donc, c'est pas... Puis on a toutes des histoires à New York. On entendait des logements dans Manhattan pour une bouchée de pain, puis les gens s'accrochaient là-dessus parce que les loyers étaient contrôlés, puis c'était pas nécessairement les bonnes personnes. Donc, c'est là la difficulté.
Soyons solidaires, qu'on soit propriétaire ou locataire.
Oui, c'est ça. Donc, il y a un défi, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, non, mais il faut en être conscient.
C'est un article que vous avez trouvé où, Michel?
Sur le site web Radio-Canada Info.
Parfait. Bien, merci beaucoup.
Qui a été publié ce matin.
Vous passerez n'importe quand. Bonne journée.
Avec plaisir.
C'est pas parce que je chante avec l'amour aux lèvres, c'est pas parce que je tente de caresser mes rêves, que je passe à côté des misères de ce monde. Comme toi, je sais bien que la roue est cruelle. Comme toi, à la fin, je m'y brûlerai les ailes. Qui cherche la lumière doit embrasser les ombres. Et tant pis, si je tombe, je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune, puisqu'ici-bas, tout se résume à chercher en nous la lumière. C'est ainsi que j'espère. Bien sûr que j'ai les larmes face à tant de détresse. Bien sûr mon cœur s'emballe au cri des SOS. Mais ce soleil en moi ne s'essoufflera pas. Oh non, non. Je préfère me blottir contre ceux qui n'ont rien. Nous aider à bâtir de meilleurs lendemains. C'est ainsi que je suis et ça en vaut la joie. Et ça en vaut la joie. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes. Pour soulager nos maux d'enclume. Et chanter nos mille misères. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune. Puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Et tant pis si j'y perds. C'est pas parce que je ris que j'en oublie nos peines. Pas parce que je souris lorsque je monte en scène. Que je reste insensible aux laideurs de ce monde. J'aime me dire que la vie est un cadeau du ciel. Et je danse sous la pluie comme une enfant rebelle. Et je chante l'embellie lorsque le tonnerre gronde. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes. Pour soulager nos maux d'enclume. Et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune. Puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes. Pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos vies de poussière. Rien que ma joie de vivre à offrir aux enfants de lune. Puisqu'ici-bas tout se résume à faire l'amour en temps de guerre. C'est ainsi que j'espère.
C'était la chanson « Mon sourire » de la chanteuse Zaz.
On est en train de se parler. Muriel Dutil.
Bonjour.
Actrice formidable que tout le monde connaît. Vous n'avez pas vraiment besoin de présentation, Muriel Dutil.
Mais c'est parce que ça fait longtemps que je suis...
ça fait très longtemps.
Oui, oui, ça fait...
Et
oui.
Je lisais votre parcours, là, ça, je me disais, est-ce que j'ai imprimé le document trois fois parce que...
Parce que c'était épais.
Ah oui, il y a plein de sites en télévision, en cinéma, au théâtre, évidemment. Surtout. Et on est en train de parler de notre expérience commune à Radio Nord, puisque j'ai fait mes débuts à la radio à Val-d'Or et ensuite à Rouyn-Noranda.
Ah, oui.
Et j'ai fait aussi du théâtre amateur en Abitibi. Et c'est comme ça, vous, que ça a commencé.
Est-ce vous avez... que c'était avec la troupe La Poudrerie?
Non, c'était non, pas la troupe La Poudrerie, okay. C'était avec, je me souviens plus de la troupe vraiment, mais on avait monté Mousse, c'est la version
oui.
féminine de Brou.
Oui, que j'ai vu à Montréal, c'est formidable. Oui, oui, oui.
Alors, oui. on avait fait une petite tournée abitibienne, ah. et là, il y a un Abitibien qui vient de se pointer derrière la vitre, qui est né à Rouyn-Noranda,
oui.
et qui s'appelle Jean-Sébastien Laliberté, qui est notre directeur bien-aimé à la radio.
Ah, ben bonjour,
alors, vive l'Abitibi!
Oui, moi, je suis née à Sainte-Claire-de-Colombie. Colombo, dans oui. le Rendis.
Est-ce que ça existe
pas
toujours?
Ça s'appelle Colombo, c'est un petit village,
ah,
mais c'était dans un rang.
Oui, c'est à Macamic, hein?
Non, c'est entre, ben oui, entre Macamic et La Sarre.
OK.
C'est un petit village.
Est-ce que vous y retournez à l'occasion dans votre
Ma famille
point
est
pays?
En Abitibi, à Rouyn-Noranda.
Ah oui.
Autour, Granada, dans ces
Donc,
secteurs-là.
Vous avez des bonnes raisons d'y aller.
Oui.
Ben, oui.
Au début, quand j'étais au conservatoire ici à Montréal, j'y allais quatre fois, cinq fois par année. Là. Je prenais l'autobus, puis j'y allais.
Ah oui,
oui,
parce
oui,
que
oui.
c'est un bon bout quand même, hein? Faut vouloir.
Oui, huit heures, mais j'aime conduire, mais dans le temps, je voyageais en autobus.
Alors, c'est là que votre amour du théâtre a pris naissance, dans
oui.
votre coin de pays d'origine.
Avec le théâtre amateur.
La
ça avait
poudrerie.
Commencé avec, oui, ça avait commencé avec le directeur, M. Gourde, David Armand Gourde,
oui.
qui était mon patron, quand je travaillais au poste de radio, et il avait réuni tous les employés pour monter une pièce de théâtre. Mais ça n'a jamais... Pour le faire à la télévision, c'était le début de la télévision. Fait que,
ah, du téléthéâtre!
Oui, comme une espèce de télé... Mais ça n'a jamais été joué, ça fait que j'étais déçue.
Oh.
Et là, est arrivé un Belge, Gérald Van de Vos, nom de plume, Georges Gregg, qui mm-hmm. était en attente de son visa pour les États-Unis parce qu'il participait à la pièce America, America. Et c'est, il est allé... voir le directeur M. Gourde. Et là, il a proposé de monter une comédie musicale. Alors, quelques employés étaient restés, les autres n'étaient pas du tout intéressés. Mais moi, oui, je
oui?
veux vivre l'expérience.
Une comédie musicale connue?
The Boyfriend.
Ah, je ne connais pas.
Puis ça faisait 14 ans, je pense, que ça jouait à Paris, où je me souviens plus.
Ah oui.
Mais c'était comme... Mais je ne sais pas chanter. Fait qu'elle avait des chansons solo. Là, donc, les chansons étaient réparties à plusieurs, je chantais avec les autres. pas trop fort.
Mais là, vous l'avez vécu pour vrai, l'expérience devant un public.
Oui. Ouais. Ah oui, j'avais 19 ans quand j'ai commencé.
Ça a été quand même une révélation?
Non, pas là.
Non?
Parce que c'est très fatigant.
Oui.
J'étais épuisant à jouer. Puis je me souviens, M. Van de Vos avait demandé, il dit, est-ce que vous êtes intéressé à jouer? Je dis, jamais de la vie, c'est trop fatigant. Mais l'expérience a fait que je travaillais aussi au bureau, dans les bureaux de Radio Nord Incorporée. Et une fin de semaine, peu importe, c'est pas la fin de semaine, c'est le 30 du mois,
oui.
Épuisé. J'arrive à la répétition, puis la répétition, c'était de 7 à 11. Bon, on répétait beaucoup. J'étais épuisée, la langue à terre. J'ai fait comment je vais passer à travers ma soirée. Et à 11 heures, quand la répétition a terminé, j'étais tellement réénergisée. C'était presque miraculeux. Je veux dire, mais j'ai plus d'énergie que quand je suis arrivée. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire de mon loisir mon métier? Et ça a été le démarrage. C'est ça, je suis partie de Rouen, j'avais 21 ans.
Hey, ça a commencé tout jeune. Vous avez eu cette espèce d'appel où vous vous êtes rendu compte que ça vous donnait plus d'énergie que ça vous en enlevait, finalement.
Oui, c'était comme...
Et ça continue comme ça?
Mais oui.
Oui.
Puis le personnage que je joue en ce moment, c'est comme tellement stimulant. Parce
on n'a pas parlé encore, là, parce que vous êtes ici pour parler
de parachute
vous,
libre,
surtout de parachute libre de David Lindsay Aber. C'est comme ça qu'il faut le prononcer.
Lindsay Aber,
un Américain.
Oui.
Oui, qui a remporté le prix Pulitzer en 2007 pour Le Terrier, qui a déjà été joué chez Duceppe dans Du Bon Monde. Et puis là, c'est Parachute libre, mise en scène de Martin Fauché, qui met en vedette Pierrette Robitaille, Muriel Dutille. Et vous êtes entouré d'autres. Acteurs,
quatre autres comédiens.
Geneviève
oui.
Allary, Mathieu Gosselin, Éric Robidoux et Ismaël Zoural. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Parachute libre, Muriel Dutille?
On est les deux dames, Pierrette et moi, dans une résidence. Il y a deux lits dans cette chambre. Et Pierrette, son personnage, Alice, ça fait 4 ans qu'elle habite dans cette chambre et elle ne veut personne dans le lit à côté.
Elle ne veut pas la partager.
Elle ne veut pas la partager. Puis elle n'a pas les moyens de se payer une chambre à un seul lit. Alors, moi, j'arrive...
Marilyn, c'est votre
Marilyn,
le nom de votre personnage.
Fait 3 semaines qu'elle est arrivée et elle est tellement de bonne humeur et heureuse d'être là. Donc, il n'y a rien à faire pour la déloger. Elle demande au préposé de faire en sorte d'essayer de trouver le moyen de auprès de la personne qui s'occupe de distribuer les chambres. Bref, ça dure presque toute la pièce avant... Mais il n'y a
pas trop
comme...
dire. Ben, on imagine qu'il va avoir une bonne entente à un moment donné.
Ah, c'est long, mais il y a toutes sortes de stratagèmes. Mon personnage, elle est trop de bonne humeur.
Ah oui, pourquoi elle est trop de bonne humeur? Est-ce que ça cache quelque chose?
C'est son caractère.
OK.
Alors l'autre...
L'autre n'est pas de bonne humeur.
Ben, elle a envie de quelqu'un de silencieux dans cette chambre.
Ah oui, elle veut avoir la paix.
Elle veut avoir la paix.
Elle est habituée d'être seule dans cette chambre-là.
Et là, j'envahis son espace. Je suis trop de bonne humeur. Il n'y a rien à faire. Elle veut me mettre en colère pour me faire sortir de... Mais non, je ne me fâche jamais.
Ben, vous êtes parfaite.
Un bon caractère.
Oui.
Mais on apprend sur chacun des personnages leur drame à un moment donné.
Elles ont quel âge, ces femmes-là?
Ben, dans...
L'âge d'être en résidence pour personnes âgées?
Oui. Pierrette a 76, j'en ai 82. Je compte-tu dans les âges...
Est-ce que c'est la première fois que vous jouez ensemble? Je pense pas. Hein?
Ben, il y a très longtemps, il y a 50 ans, Pierrette sortait du Conservatoire de Québec. Et puis, le souvenir que j'ai, c'est comme... C'est mystérieux parce que j'avais de la misère avec mon personnage... On n'avait pas de scène du tout.
Vous étiez aussi au Conservatoire de Québec?
Non, c'était à Montréal. On a joué au TNM, je pense. Une pièce de Jean Daigle qui s'appelait Coup de sang. Et je ne sais pas, j'avais aucune scène avec Pierrette. Puis il y avait André Lachapelle aussi. Je pense qu'il y avait Gilles Renaud. C'est comme mystérieux le souvenir de ça d'il y a 50 ans.
Mm-hmm.
Probablement parce que dans le personnage, je ne sais pas confortable, c'est pas vrai. C'est comme... Non, mystérieux. Ouais. C'est mystérieux.
Donc, vous jouiez dans la même pièce, mais vous n'aviez pas des scènes ensemble.
Exactement. Okay. Ce qui fait qu'il y a moins... Le rapport n'est pas pareil.
Ouais.
Comme,
Et puis là, comment ça se passe sur
Très
scène?
Bien.
Est-ce que la chimie est là?
Oui,
est-ce que ça s'est installé dès le début?
Oui.
Oui?
Oui, oui, oui. Au début des répétitions, il y a comme... C'est une fille très, très généreuse, puis très enveloppante et tout ça.
Ah,
puis,
ça aide.
Oui, 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 oui.
Et vous aussi, j'imagine que vous êtes généreuse et enveloppante.
Bien, c'est-à-dire que j'ai le contact facile avec les gens.
Oui. Ouais. Je voulais être sûre, là, vous avez fait quelle école de théâtre?
Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal.
De Montréal, OK.
De 67 à 70.
Est-ce que vous avez déjà enseigné à ce conservatoire?
J'ai fait une mise en scène. De fin d'année.
Mais vous n'avez pas le temps d'enseigner, vous jouez tout le temps.
Ben, j'ai enseigné quand même 7 ans à l'École nationale de théâtre.
Ah, 7 ans?
Oui, puis oui, quand j'ai arrivé, quand j'ai commencé à jouer, c'était le début. Il y avait Michel Tremblay en 68, moi je suis sortie en 70. Donc je rêvais de ne jouer que du québécois.
Ah oui?
Et c'est un peu ça que j'ai fait. Donc les gens s'imaginent souvent que j'ai fait l'École nationale.
Et c'est pas le cas.
Non, conservatoire.
Oui, oui.
Ne les contraignons point, Doris, retirons-nous.
Alors, parlant de conservatoire, ben, je ne sais pas si vous vous souvenez des scènes pour lesquelles vous avez été acceptée, finalement, parce qu'il faut toujours présenter des scènes en audition quand on fait une école de théâtre.
Oh,
mais...
bonne question, parce que ça m'échappe. Ouais. Attendez, mais je me rappelle comment je me sentais physiquement très nerveuse et en même temps... Ah oui, fallait présenter un drame, fallait présenter un contemporain.
Ouais.
C'est tout.
Mais moi, je me souviens d'avoir travaillé Le Temps d'une vie parce que je vous avais vu au TPQ.
Ah oui, en tournée.
Dans
oui.
le rôle de Rose Aimée. C'était oui. ça son prénom.
Oui.
Ça, c'est un de vos personnages marquants, là.
Oui, Rose Aimée. Oui, oui. 60... C'est-tu Rose Aimée? C'est pas.
Ah, peut-être que je me trompe. Il me semble que c'était ça son nom. Regardons, Mathieu, s'il vous plaît. Le personnage féminin principal de Le Temps d'une vie de Roland Lepage.
Rose... Oh, je suis en train d'oublier.
On va le trouver. On va le trouver.
Mais... oui, je l'ai joué en 75 au Théâtre d'aujourd'hui, dans le temps que le Théâtre d'aujourd'hui était dans le fond de la cave. Là, sur...
oui, Papineau.
Papineau au sud de Sainte-Catherine. Là, dans...
oui.
Et ensuite, le Théâtre populaire du Québec, il l'a repris en 78. On a fait une tournée. On a même fait une tournée en France. C'est la pièce que j'ai jouée le plus longtemps. J'ai fait ça à peu près 300 représentations.
Ah!
Ça s'est étiré. Mais grâce au Théâtre populaire du Québec, c'était Jean-Yves Gaudreau qui était directeur du théâtre à ce moment-là, puis était... vraiment, grâce à lui, il a ouvert la pièce, il a permis à la pièce de voyager encore plus.
Et le TPQ m'a donné, entre autres, ben, l'amour du théâtre. J'ai voulu en faire et je continue d'être une spectatrice assidue. C'est pour ça que je me dis, il faut montrer du théâtre aux jeunes pour qu'ils deviennent les spectateurs de demain, finalement. C'est Rose Anna Saint-Cyr,
Rose Anna.
Franchement.
Rose Anna.
Alors là, on a parlé de votre personnage en parachute libre, Marilyn. Est-ce que l'humour est très présent dans la pièce ou on est plus troublé, ému, choqué?
C'est surtout l'humour. Les réparties de Pierrette sont magnifiques.
Oui.
Et la situation est comique. La confrontation l'est. Et puis, il y a des moments... C'est très humain. C'est le talent de David Lindsay Hebert.
Quel genre de Toutes thème ça pièces. Aborde, cette pièce-là? C'est sur la vieillesse?
Relation. Les contraires qui se confrontent, qui trouvent une façon de s'amalgamer ensemble, de se séparer, de revenir.
Ouais.
C'est très humain. C'est en même temps la situation émotive, le passé non dit. C'est plein de subtilités. Puis Martin a fait un travail remarquable. Martin Fauché qui
fait à la mise en scène.
Tout le monde, les costumes.
Et ça a été traduit aussi.
Oui. Par Maryse Varzard,
ouais.
qui traduit beaucoup. C'est elle qui avait traduit aussi Le Terrier.
Son texte est quand même facile à vous mettre en bouche. Là.
Tout oui. à fait. C'est vraiment
Et
très agréable.
Après plusieurs années de carrière, Muriel Dutille, ça représente quoi? Ce rôle-là représente quoi pour vous? Là? Parce qu'il est centré sur une femme d'âge mûr.
Oui, mais quel beau timing! Parce que l'année passée ou l'année d'avant, peut-être que j'ai joué là, peut-être... Avant d'avoir... Mais c'est parce que quand Martin m'a téléphoné, c'est un rôle extraordinaire et un rôle vraiment très important. C'est on est en scène toutes les deux, Pierrette et moi, presque tout le temps. Et un rôle de cette ampleur-là, j'avais pas eu ça depuis longtemps.
Alors, comme on ira.
Puis c'était comme de dire oui, j'accepte tout de suite.
On ira vous voir Parachute libre au Rideau vert à partir du 6 mai jusqu'au 13 juin. Merci.
Oh, merci, Hélène.
Vous écoutez Au quotidien. Avec Hélène Denis.
Le roi de la montagne a je te fatale. Ses yeux fixent les outards, s'éloignent du monde royal. Il n'a jamais voulu m'entraîner dans sa chute, jamais voulu laisser briller les étoiles dans mes yeux, jamais aimé quand je parle de moi, toujours penser que quelque part y a quelqu'un qui lui ment. Il n'a jamais voulu m'emmener dans le sud, jamais voulu que la lumière se pose sur moi. J'avoue, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi.
Le roi de la montagne, une chanson de Claude Pelgag.
La chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, vous étiez au Salon du livre de Bonaventure tout récemment.
Oui, toute la fin de semaine. C'était la 10e édition d'un salon régional, si je peux appeler ça comme ça, le seul en Gaspésie.
Ah oui?
Oui.
Est-ce qu'il y avait pas mal de monde au rendez-vous?
Oui, je crois qu'on était 2000 personnes qui sont passées là pour un petit village comme Bonaventure.
C'est excellent. Ah oui, c'est considérable. Alors, Anne-Marie, aujourd'hui, deux livres. Un qui s'intitule « Nous, humains » et l'autre « Architecture de la joie ». Très beau titre. « Nous, humains », c'est publié aux éditions AMAC.
Oui, un livre qui a été lancé justement au Salon du livre par l'autrice Joanne Morancy, poète qui habite à Maria, dans mon village.
Bien oui.
Et qui publie régulièrement sur ce qui se passe. Elle est très près de l'actualité, de ce qu'elle vit. C'est très proche des humains, justement, comme le dit le titre. Et dans celui-là, il est vraiment question de l'éco-anxiété, la crise écologique, la solidarité des gens, l'urgence d'agir. Et je dirais que des images qui nous font penser à la pandémie, à ce qui se passe dans le monde, particulièrement la planète, tout ce qu'on voit, c'est assez bouleversant de vérité. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Qui est divisé en trois parties. La première s'appelle « Nous, humain. Donc là, on voit le désarroi de cette autrice par rapport à un vertige qui s'installe à mesure que le temps passe. Et elle commence avec une citation de Yves Préfontaine. « Demain, après-demain, il n'y aura plus de mots pour trembler comme aujourd'hui tremble l'homme stupéfait de ce qu'il est. » Alors, effectivement, en préambule, elle dit « Je suis de ces humains qui observent le monde sans comprendre. » Donc, elle se questionne, elle s'interroge, elle témoigne de ce qu'elle ressent en post-pandémie. Je cite « Nous venions de ranger les tuques avec nos masques, de retrouver une respiration humaine. Dans les grands titres, une idée fixe fut remplacée par une autre, les morts par d'autres morts. » Donc, on se sort d'une crise et on entre dans une autre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie s'intitule « Qui sommes-nous ?» Et c'est sa douleur face aux humains. Et je la cite « Je charrie l'impuissance comme une démangeaison constante, me recompose en silence dans l'alignement minutieux de cailloux. Ainsi, chacun se trouve une forme habitable, mais elle ne dure jamais. » Effectivement, elle voit comment finalement on peut se consoler, on peut se réconforter, on peut trouver de l'espoir, mais il se passe d'autres choses qui finalement brisent souvent nos élans. Et elle dit un peu plus loin, « Je m'éveille sous les décombres, le souffle court, des taches d'encre sur l'oreiller. Je dispose d'un cahier pour respirer, d'un second pour cracher. Ce que je dis ou ne dis pas ne change rien dans l'intervalle matériel. Je ne parviens qu'à déplier les choses sans les toucher, relâcher l'énergie de mes poings. » Donc, l'écriture, on voit ici le rôle que ça prend dans sa vie, effectivement, combien c'est important. Et la dernière partie, là, le ton change vraiment. Ça s'appelle « Sur la terre ». Et là, on sent vraiment l'urgence d'agir. Elle dénonce un certain nombre de choses. Et puis, on ne peut qu'approuver ce qu'elle nous dit. Je vous donne un exemple. « Nous déchirons la toile qui composait le globe. Jouons à cache-cache avec l'avenir. Levons nos daiquiris en trinquant au règne d'un soleil malgré lui, assassin. Déjà, nos oiseaux ont perdu leur nord. » Alors, ça touche tout le monde. C'est une poésie très lisible. Là, on n'est pas dans l'abstraction, dans l'hermétique. On comprend très bien combien elle, autour d'elle, elle observe des choses qui la bouleversent. Puis elle dit « J'ai pour haut le cœur, mon continent aveugle. Les engelures d'un certain détachement. Je porte à la nuque le sceau de l'inaction. À mon cou, la cassure de la honte, mes deux bras tordus dans la roue. » Puis heureusement, au couvert 4 du livre, elle cite quand même ces émotions confuses qui, tour à tour, nous traversent face à l'état de l'humanité et de la planète. Elle dit « J'en semence une légèreté ici et là dans la terre compacte. J'additionne les moindres signes de paix, les ébauches de sourire, toute parole qui libère un otage dans le thorax. » Elle se sent impuissante, mais elle témoigne de ce qu'elle peut faire pour traverser cette situation de crise. Donc, un très, très beau recueil que je recommande, qui sort aujourd'hui en librairie.
Merci. « Nous, virgule, humains » par Joanne Morancy, qui est une Gaspésienne. Est-ce que vous la croisez quelquefois à l'épicerie? Elle vit à Maria?
Ah, oui, un peu partout. Oui, bien sûr.
Et puis l'autre livre, beau titre, ça va devenir une pièce de théâtre, si je ne m'abuse, « Architecture de la joie » par Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon.
Oui, aux éditions Marchand de Feuilles. C'est un livre de 436 pages. C'est au pluriel, l'architecture, parce que finalement, c'est les manières de construire la joie, de trouver la joie, de la faire vivre, de la faire durer. Donc, ces deux auteurs se sont retrouvés aux Îles-de-la-Madeleine en 2023 dans un festival littéraire. À partir de là, ils se sont mis à s'envoyer des lettres. Et puis là, le recueil constitue un peu plus de 40 lettres. Il n'y a pas de date, de lieu, comme dans une correspondance où on écrirait, par exemple, Paris, 8 avril. Non, c'est pas comme ça. C'est des lettres qui ont des titres et qui sont numérotées pour qu'on s'y retrouve. Et il y a une alternance de Steve à Anaïs dans la lecture qui a un repère au niveau de l'impression là, du titre pour qu'on voit, là, c'est pas la même typo, c'est pas la même encre et on se retrouve facilement de toute façon. Alors, il y a la première lettre où Steve dit « J'ai envie que nous partions ensemble à la recherche de la joie. » Pas comme un processus thérapeutique, mais comme une longue balade de nuit dans une rue large. Et elle, elle va dire oui, je veux bien écrire avec toi. Il faut que je trouve des raisons. D'abord, elle fait une liste de toutes les raisons pour lesquelles elle veut bien écrire avec lui. Et j'en nomme une. Parce que tu as envie d'apprendre à sortir un peu de toi et que ça demande beaucoup y entrer en même temps. Alors là, ensuite, ils vont se mettre à parler de ce qui est la joie, où est-ce que ça se trouve. Et puis bon, ben, elle dit qu'après le séjour aux îles, il rentrait chez lui et était très malheureux. Puis là, je cite, « Ce qui rend la maison habitable est la joie. Cette joie-là ne naît pas de la maison, mais de ceux qui y vivent. » Et là, lui, dans sa quête de trouver finalement une façon d'être bien dans sa peau, dans sa vie, dans tout ce qui le traverse, va retourner aux souvenirs de l'enfance et raconte son enfance. Lui, il est né à Chicoutimi, il parle de ses grands-parents. C'est très touchant. Et puis, là, il se rend compte de l'importance qu'avaient ses grands-parents dans son enfance quand il allait les voir. Sa grand-mère avait dans sa table de chevet des bonbons. Et il semble être quelqu'un qui aime les bonbons, qui aime les desserts, puis qui est gourmand. Et il dit que quand il mettait sa main là-dedans, c'était comme extraordinaire, c'était comme une fête. Et je cite, « Je pense que c'est comme ça que j'ai appris à semer des petits coffres au trésor partout autour de moi. » Donc, il y a des passages très émouvants, très intimes, mais la majorité des lettres sont assez courtes, nourries de leur lecture et leur découverte. Il y a beaucoup de lectures philosophiques, scientifiques, littéraires, bien sûr. Il y a à la fin une bibliographie de tout ce qui concerne le sujet. Ça va dans plusieurs directions. La nature est très importante, la sensualité, la vulnérabilité. Accepter que tu es vulnérable. Et lui, chaque automne, raconte qu'il devient nostalgique. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. J'ai eu l'automne pour mourir, mais j'ai appris. J'ai appris à l'aimer maintenant.
Mais la nostalgie, alors, c'est pas nécessairement détestable?
Ben, lui, il a l'air de souffrir. Il dit, chaque automne, je sombre au cœur d'une très inconfortable nostalgie. Je ne m'habitue pas à ce qui est éphémère. Plus loin, il va dire, je ne m'habitue pas à ce que les choses passent, changent et se terminent. Mais en fait, dans une lecture de Belinda Cannon, et plus loin, on dit l'émerveillement n'est jamais ce qu'on cherche, mais ce qui survient. Donc, dans toute cette quête de joie, on apprend à observer, à être près des petites choses et à s'émerveiller de ce qui peut durer, justement, entretenir une amitié, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans la durée. Et ces lettres-là, donc, à la fin, prennent un sens beaucoup plus scientifique parce que là, ils sont dans une recherche. Et puis, moi, ce que j'ai entendu, ben, j'ai lu le livre, mais aussi en fin de semaine au Salon du livre, ils ont fait une lecture qui est un extrait du spectacle qui est présentement à l'affiche à Montréal et qui va tourner dans le Québec, je crois. Et c'est une adaptation de ces lettres-là. C'est pas les lettres consécutives de tout le livre, parce que ça ferait un trop long spectacle. C'est un spectacle d'une heure et quart et c'est très beau parce que c'est interprété. Donc, en plus du contenu qui est intéressant, c'est d'écouter, d'être dans l'écoute.
Ouais. Alors, le spectacle va être présenté à partir du 23 mai à la 5e salle de la Place des Arts.
Voilà, les billets sont déjà en vente. Je vous y invite.
Architecture de la joie, donc on peut lire le livre et on pourra voir la pièce ou la lecture-spectacle un peu plus tard par Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon et c'est publié. Aux très belles éditions Marchand de feuilles. Merci beaucoup Anne-Marie, on se retrouve la semaine prochaine.
En personne.
Oui, c'est vrai!
J'y serai.
Un événement! Au plaisir de vous rencontrer, on ne s'est jamais vu de notre vie.
C'est vrai.
Puis on se parle depuis quoi? 4-5 ans?
7 ans.
Combien?
7 ans.
7 ans! Ah, j'en reviens pas.
Tant que c'est 2019.
Bon. OK, ouais. On va faire nos recherches. On s'en reparle. On se voit la semaine prochaine. Merci. Au plaisir. Revoir.
J'ai bien aimé « Rêve américain » de Jonathan Personne.
Merci beaucoup, Mathieu. Dans la section « Dialogue de la presse », ce soir-là, un texte de Télisson Aurélien. Qui est Télisson Aurélien? On en a entendu parler récemment. Il est né en 1988 au Gonaïve. Il a quitté Haïti après le séisme de 2010 et il s'est installé au Québec. Il a publié 4 recueils de poésie entre 2006 et 2025 et son premier roman, C'était ça ou mourir, a été publié en mars 2026 chez Boréal. Sera publié à l'automne chez Grasset. Il a déjà publié quelques lettres d'opinion dans Dialogue, dont une sur son apprentissage des sacres québécois qui a suscité de nombreuses réactions enthousiastes. Aujourd'hui, il parle de hockey. Et sa chronique, ce soir-là, le Québec avait décidé de parler d'une seule voix, mais sans s'entendre au préalable. Le titre de la chronique, c'est ce soir-là. C'est ça, le plus beau. Personne n'avait convoqué personne. Il n'y avait pas de mots d'ordre, pas de manifeste, pas de grand discours, seulement des lumières allumées, derrière des rideaux fatigués, des téléviseurs qui clignotent comme des lucioles modernes et cette attente douce, presque timide, qui précède les grandes émotions. Je marchais sans but précis. J'aime marcher les soirs de match. On y voit mieux le pays que dans n'importe quel livre d'histoire. Les rues sont des phrases, les fenêtres des paragraphes et les cris des ponctuations imprévisibles. On n'a pas besoin d'entrer chez les gens pour savoir ce qui s'y passe. Tout déborde. Un homme sort d'un dépanneur avec une bière. Il regarde son téléphone comme s'il attendait une révélation. Une femme, appuyée sur un balcon, parle à quelqu'un à l'intérieur sans détourner les yeux de l'écran. Deux adolescents rient trop fort pour un événement qu'ils ne contrôlent pas. Une vieille dame ajuste son volume. Elle veut entendre, mais pas trop. Elle connaît déjà la fin de certaines histoires, mais elle accepte de les revivre. Ce soir-là, le hockey n'était pas un sport. C'était une manière d'habiter le temps. Le Canadien ne joue jamais seul. Il transporte avec lui une mémoire qui ne s'écrit pas, mais qui se raconte à voix basse. On ne dit pas toujours les noms, mais ils sont là, dans l'air, comme une rumeur ancienne. On les devine dans la façon de se lever d'un fauteuil, dans l'élan d'un cri, dans cette confiance étrange qui surgit même quand tout semble perdu. J'ai compris que certaines villes ne vivent vraiment que lorsqu'elles partagent une attente. Montréal est de celles-là. Elles n'aiment pas seulement gagner. Elle aime croire. Elle aime cette tension fragile entre ce qui pourrait arriver et ce qui n'arrivera peut-être pas. Elle aime l'incertitude quand elle est habitée ensemble. Dans un appartement du plateau, un père expliquait quelque chose à son fils. Peut-être la règle du hors-jeu. Peut-être la patience. Peut-être rien de précis. Il parlait pour transmettre un peu plus qu'un jeu. L'enfant hochait la tête comme s'il comprenait déjà tout. On comprend toujours trop tôt ce qui compte vraiment. Plus loin, dans un salon trop éclairé, des amis s'étaient réunis. On avait apporté des chips, des opinions, des souvenirs. On parlait fort pour cacher l'inquiétude. On riait pour conjurer le sort. Chaque présence ajoutait une couche de chaleur à la pièce. Le match était un prétexte, mais un prétexte noble. Il permettait d'être ensemble sans justification. Ce soir-là, personne n'était complètement seul. Même ceux qui regardaient le match en silence participaient à quelque chose de plus vaste. Ils étaient reliés par un fil invisible, tendu d'un quartier à l'autre, d'un étage à l'autre, d'un cœur à l'autre. Une sorte de fraternité discrète, sans obligation, sans promesse, mais profondément réelle. Le bruit de la ville changeait. Il devenait organique. Il respirait. Un cri montait, puis un autre, puis une vague entière. On aurait dit la mer, mais une mère qui comprend le hockey. Les voitures ralentissaient sans raison. Les passants s'arrêtaient devant des vitrines pour capter un fragment d'image. On ne voulait pas manquer l'instant où tout bascule, car il y a toujours un moment où tout bascule. Une rondelle qui dévie, un tir qu'on n'attendait pas, un silence d'une seconde, puis l'explosion. Ce moment-là ne dure presque rien, mais il reste longtemps. Il s'imprime dans le corps comme une preuve que la joie collective existe encore. Ce soir-là, le Québec n'avait pas besoin de se raconter. Il se vivait. Il y a des peuples qui se définissent par leurs grandes déclarations, d'autres par leurs blessures. Ici, on pourrait dire que certaines vérités passent par des gestes plus simples. Une porte laissée entrouverte pour entendre le match du voisin. Un texto envoyé à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des mois. « Tu regardes? » une réponse immédiate, bien sûr. C'est dans ces échanges minuscules que se construit quelque chose de durable. On dira que ce n'est que du hockey. On aura raison. Et en même temps, on aura tort. Parce que ce que est déjà trop, il réduit ce qui déborde. Il oublie que les êtres humains ont besoin de ces moments pour continuer à faire face à tout le reste. Ce soir-là, il n'y avait pas de grande théorie, pas de débat compliqué, pas de frontières visibles. Il y avait une nation attentive, tendue vers un point minuscule sur la glace et capable pendant quelques heures de se reconnaître elle-même. Quand le match s'est terminé, la nuit est restée. Mais elle n'était plus la même. Elle portait encore les échos, les rires, les soupirs. Elle avait été traversée par quelque chose de rare, une communion sans cérémonie. Je suis rentrée lentement. Les rues se vidaient, mais pas tout à fait. Il restait des traces, une fenêtre encore allumée, une voix qui commentait un dernier jeu, un sourire sur un visage fatigué. Ce soir-là, le Québec n'avait pas besoin de se prouver. Il était là, simplement dans sa manière de tenir ensemble, sans bruit inutile, avec une élégance tranquille. Et c'est peut-être cela, au fond, sa plus grande force. Texte de Félix Morissette-Beaulieu et Jonathan Lavoie dans le site, sur le site de Radio-Canada. La Ville de Québec a mené 300 interventions lors de la première année de son plan d'action en accessibilité universelle 2025-2030. Plus concrètement, 18 projets ont bénéficié d'améliorations en accessibilité universelle, touchant notamment des bâtiments municipaux, des parcs et des infrastructures sportives et communautaires. Par exemple, dans les parcs, la Ville a procédé à l'ajout de 9 tables adaptées, de 47 ensembles d'accoudoirs sur les bancs et de 28 toilettes chimiques adaptées. Les modifications ont été faites notamment dans le parc de la Chanterelle ainsi que dans les parcs Jean-Paul Nolin, Montpellier, Néré-Tremblay, Raymond de Rosa et Roger Lemelin. Une entrée sans obstacle a aussi été mise en place au parc Maria Goretti, tout comme l'ajout de sentiers asphaltés, d'une rampe pour entrer dans les modules en fauteuil roulant et d'un escalier avec main courante pour la piscine. Outre les parcs, le réseau de transport de la capitale a aussi ajouté 205 arrêts d'autobus accessibles aux personnes à mobilité réduite, portant le total à 1741. Sur le terrain, c'est visible dans les parcs, dans les déplacements, dans l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, l'accès à l'information. Se félicite Claude Lavoie, conseiller municipal chargé de l'accessibilité universelle. Les efforts de la Ville de Québec ont été salués par des organismes qui représentent les personnes handicapées. Les signaux sonores sont notamment plus nombreux aux intersections, mais il en manque encore à des endroits névralgiques selon le regroupement des personnes handicapées visuelles. Le secteur du boulevard Charest est cité par le co-directeur Jean-Michel Bernier. Ce sont des intersections qui sont difficiles à traverser lorsqu'elles ne sont pas munies de signaux sonores, déplore-t-il. Le déneigement inadéquat des trottoirs représente aussi toujours un obstacle de taille pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Il y a donc encore du chemin à faire. Et je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, mais on a annoncé plus tôt que le premier ministre Mark Carney a annoncé que l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, deviendra la prochaine gouverneure générale du Canada. Âgée de 79 ans, Mme Arbour a une impressionnante feuille de route. En plus d'avoir été juge de la Cour suprême du Canada, elle a agi comme haute commissaire des Nations unies aux droits de la personne et a été procureure en chef du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Elle a aussi servi comme juge de la Cour d'appel de l'Ontario. Merci d'avoir été présent. On se retrouve, je l'espère bien, demain à compter de 9h30. Merci à vous. Bonne journée sous la pluie. Merci, Mathieu Tessier. À demain.